Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Terre Promise ou Enfer, une émission produite par l'Initiative Chrétienne pour la Paix, la Réconciliation et le Développement, ICPRD, en partenariat avec Grand Lac TV. À travers cette émission, nous parlons de gouvernance, de paix et de gestion durable de ressources naturelles dans un contexte où l'exploitation minière à Mwenga soulève de nombreuses interrogations. Riches en minerais, nos terres attirent chaque jour des entreprises, souvent sans réel souci de l'environnement ni des droits des communautés locales. Aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble sur l'impact environnemental et social de cette exploitation à Mwenga. Pour en parler, nous recevons pour vous M. Camille Ndolandola, qui est le directeur provincial de l'Agence congolaise de l'environnement au site Kivu. Bonjour M. Camille et merci d'avoir accepté notre invitation. Et bonjour à vous, chers auditeurs, auditrices, chers auditeurs qui nous suivez depuis Vision Chala FM Kamituga et sur nos plateformes digitales. M. Camille, bonjour.
Bonjour madame.
Nous parlons aujourd'hui de l'étude d'impact environnemental et social de l'exploitation minière dans le territoire de Mwenga. Et vous, en tant que directeur provincial de l'Agence congolaise de l'environnement, nous vous avons choisi comme notre invité principal. Parlez-nous un peu de ce que ce thème vous inspire par rapport aux réalités que vivent nos territoires qui sont déjà fragilisés.
Merci beaucoup pour cette parole, madame, que vous m'accordez. Je vous remercie pour m'avoir invité pour cette émission. Évidemment, l'étude d'impact environnemental et social, c'est une évaluation de l'environnement que nous menons avant l'exécution de tout projet qui a des incidences sur l'environnement, c'est-à-dire un projet qui peut avoir des conséquences sur l'environnement. Ce que vous connaissez, d'une manière générale, tout est bâti sur l'environnement. Et lorsqu'on veut faire une activité, et généralement une activité durable, cette activité, selon notre réglementation, elle doit être soumise à une évaluation de l'environnement pour qu'on essaie un peu d'évaluer les conséquences de cette activité sur l'environnement et sur la population. Et c'est à ce sens que nous parlons des études d'impact environnemental et social. Et ces études sont préalables à la réalisation de tout projet qui a une incidence sur l'environnement. Ces études, lorsqu'elles sont réalisées en RDC, il y a un organe attitré qui doit les valider parce qu'il doit prévoir que ces études, lorsqu'elles sont réalisées, doivent être soumises à l'Agence congolaise de l'environnement pour validation. Et lorsqu'elles sont validées, ces études assortent d'un plan de gestion environnementale que nous appelons communément le PGS. Ce PGS-là, c'est un plan, comme nous le disons, qui ressort toutes les observations ou les recommandations qui ont été formulées dans les titres et les acteurs qui doivent le mettre en œuvre. Et c'est là qu'ils doivent suivre pour se rassurer si réellement les recommandations sont bel et bien prises en compte. Cela revient au sens de l'Agence congolaise de l'environnement. Quelle est sa mission? Sa première mission est de pouvoir valider toutes ces genres d'évaluations-là qui sont réalisées. Lorsque un promoteur de projet cherche à réaliser son projet, il doit d'abord réaliser l'étude d'impact. Cette étude est soumise à l'agence pour validation. Lorsqu'il est validé, le plan qui sort doit être finalement suivi. Et c'est à l'agence congolaise de l'environnement de pouvoir suivre les recommandations que l'État a formulées pour la mise en œuvre de ce projet, afin de se rassurer que ce projet-là se réalise dans les conditions de la sauvegarde environnementale et sociale. Voilà, c'est en fait ça l'importance de ce type d'impact environnemental et social. Ça, c'est d'une manière générale. Mais pour les cas d'espèces, il s'agit bien des exploitations, des projets d'exploitation des minéraux. Ce sont des projets qui ont aussi des incidences sur l'environnement et sur la population. Qu'est-ce que nous voulons dire? Lorsque un projet d'exploitation minière est exécuté, il touche sur les arbres, il touche sur la forêt, il touche sur le champ, il touche sur les étangs piscicoles, il touche même sur des habitations déjà. Alors, tout ça, c'est ce que nous appelons des impacts. Et l'État ne peut pas laisser faire. Il doit se rassurer. Est-ce que celui-là qui a son argent, lorsqu'il cherche à exécuter ce projet, est-ce qu'il est en train de protéger les actifs d'autrui? C'est à ce sens que l'État doit pouvoir suivre cette question au préalable pour se rassurer que c'est celui-là qui va exploiter et en train de respecter tout ce qui est prévu par la loi.
Cependant, sur terrain, on observe le non-respect du code minier et des normes environnementales. Quelles sont les principales conséquences que cela a sur la population, surtout celle qui environne les sites miniers?
Les conséquences sont énormes, madame. D'ailleurs, du point de vue environnemental, je vous dis, si la situation de Mwenga, nous la connaissons, si vous allez là-bas, c'est tous les champs qui étaient là qui sont ravagés. Donc, toutes les cultures sont vraiment détruites. Les étangs piscicoles sont détruits. La terre elle-même, donc le sol est remué d'une manière contrôlée, à tel point que le sol arable il est enfoui. Et c'est le bas qui est ainsi remis sur des hauts, à tel point qu'on ne sait plus même mettre de quitté. Ça, ce sont des impacts négatifs. Au-delà de ça, il y a des sites où même les ponts sont endommagés. Quand celui qui est en train d'exploiter, il trouve que son filon de minerais se trouve même en dessous du pont, il est prêt à pouvoir ravager les ponts. Donc, lorsque cette exploitation s'est faite, il s'est fait avec autant de risques. Et le mal, c'est que même les gens qui font les champs, il ne faut plus paisiblement. Vous pouvez être ici, demain vous vous retrouvez qu'il y a soit un Chinois qui se réveille là, sans vous consulter, et il commence à détruire vos cultures. Au-delà de ça, vous avez planté votre arbre ou vous avez vos arbres qui vous entourent parce qu'il faut savourer un bel air, lui détruit tous ces arbres-là. Vous trouvez que vous avez votre terre arable alors que vous devez mener des cultures, il devrait mettre tout ce sol et vous allez trouver à côté, ce sont des marais, des trophisations. Donc, tout, même le paysage, il est totalement bouleversé. Donc, tout est saccagé. Et finalement, même s'ils le font, d'ailleurs, la loi prévoit qu'il faut faire la consultation du public. Avant que vous ne le fassiez, vous devez aussi consulter le public pour que les gens sachent qu'est-ce qui doit être fait dans leur environnement. Et c'est là, il faudrait que les gens se rassurent et ce qui doit être fait pour qu'il apporte aussi les soutiens à ceux-là qui doivent exploiter. Donc l'exploitation doit se faire conjointement avec la population. C'est ce qu'on n'est pas en train de remarquer à Mwenga. Et tout ça, ce sont les conséquences que nous déplorons. C'est là que nous disons que les projets d'exploitation que mènent les Chinois à Mwenga, c'est une destruction vraiment de l'environnement. Ça va outre, ça va vraiment à l'encontre de ce qui doit être fait.
Parlons toujours de cette destruction. À quelle étape précise du processus minier, de l'exploitation, à la transformation, les impacts environnementaux sont plus remarquables?
Madame, généralement, comme je vous ai dit, cette évaluation-là doit se faire au préalable. Et si elle doit se faire au préalable, toutes les conséquences que les activités qui seront menées pourraient engendrer doivent être évaluées. Et les mesures pour leur gestion doivent être proposées au préalable, avant que les activités ne s'exécutent. Parce que les impacts, il y en a à tous les stades. À tous les stades. Je ne vous dirai pas que non, simplement, il faut attendre qu'ils viennent vers l'exploitation. Non, je vous dis, c'est à tous les stades que les impacts sont identifiés. Et ces impacts doivent être gérés au préalable. Avant qu'ils ne commencent déjà, on lui sort un plan de gestion environnementale et sociale qui va lui dire... Lorsque vous serez en train de réaliser cette activité, voici comment il faut s'y prendre et voilà comment il ne faut pas le faire. Parce que si vous faites ça, voici les conséquences qui vont surgir. Et ces conséquences-là seront peut-être non maîtrisables. Raison pour laquelle il faut y veiller avant que vous ne commenciez. Donc, dire à quel stade, généralement, nous vous disons, les stades, les impacts sont beaucoup plus prononcés au stade d'exploitation. Parce que Lorsqu'on expatse, on ravage tout, on pollue l'eau, on utilise des produits chimiques, on ne tient même pas compte de ce que déjà utilise comme eau et tout est fait en désordre. Et ce sont les conséquences qui pèsent. Donc on ne dira pas simplement que c'est seulement dira la phase d'exploitation. Non, parce qu'il y a des phases préalables. Et ces phases préalables, ou la période préparatoire, engendre aussi des conséquences sur l'environnement comme sur la population.
Monsieur le directeur, qu'en est-il d'exploitation artisanale vu que vous êtes plus attelé sur l'exploitation moderne que font les Chinois? Elle semble moins contrôlée et pourtant, elle représente une grande partie des activités minières à Mwenga.
Vous savez, madame, l'exploitation artisanale, elle cause aussi trop de dégâts. Mais les gens semblent minimiser ça. Alors que c'est vraiment une exploitation aussi qui ravage l'environnement. Et ça, je vous rassure, nous sommes dans une ZEA, par exemple. Dans une ZEA, on retrouve tout ce qu'on peut retrouver aussi dans un périmètre exploité par des milliers industriels. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on voit? Lorsque cela doit se faire, ça ne se limite pas. S'il y a aussi un arbre, comme je vous dis, il ne peut pas le laisser. Tous ceux qui vont s'y trouver des vaillés, ils les ravagent. Mais néanmoins, notre loi, elle est un peu limitative. Elle ne met pas beaucoup plus l'accent sur l'exploitation artisanale. Parce que l'étude d'impact que je tente d'évoquer ici, cette étude n'est pas soumise, elle n'est pas imposée aux exploitants artisanaux. Mais toutefois, il y a une quote-part que les exploitants artisanaux sont censés donner pour pouvoir protéger l'environnement. Malheureusement, dans la gestion des choses dans notre pays, ça, je vais vous l'avouer, madame, cette quote-part que les exploitants artisanaux donnent à l'État congolais, on ne sait pas où elle part. Ça, on ne sait pas où elle part. Mais c'est une exploitation vraiment qui touche beaucoup plus l'environnement. Parce que vous allez voir, même les produits qu'ils utilisent, ils utilisent souvent le mercure. Pour quand ils doivent amalgamer de l'or, ils utilisent le mercure. Mais ce mercure-là, c'est un produit dangereux, avec plus de conséquences sur la santé humaine. Il y a des gens qui sont tout autour. Ce produit-là, c'est un produit cancérigène. Mais les gens le manipulent sans pour autant se protéger. Ils ne voient pas les conséquences. Mais les conséquences sont ressenties dans les jours. Aujourd'hui, vous pouvez être là, vous toucher, vous manipuler, vous pensez que vous êtes indemne, mais le lendemain, ça vous suit.
Monsieur le directeur, peut-on parler d'un développement durable dans un contexte actuel à Mwenga? Quelles sont, selon vous, les conditions pour qu'elles deviennent réellement réelles?
Madame, la société, lorsque nous parlons du développement durable, et ça doit en principe accompagner tout projet de développement. Parce qu'il n'y a pas un projet de développement sans ce que nous appelons ici, parce que nous parlons des cas d'espèces, des projets miniers. Il y a ce que nous appelons la responsabilité sociétale de l'entreprise. C'est-à-dire, lorsqu'une entreprise doit faire une exploitation industrielle ou semi-industrielle de l'or ou des minerais, elle doit discuter ce que nous appelons les cahiers de charges avec la communauté. Et lorsque tu discutes le cahier de charges avec la communauté, dans ce cahier de charges, il y a des projets qui sont identifiés dans le cadre de développement du minier ou de la zone d'insertion de ces activités. Alors, ces projets-là doivent être discutés avec la communauté. Et ce sont des projets communautaires. Par exemple, si dans un village, il n'y a pas d'école, la population peut solliciter que les gens qui doivent exploiter dans leur zone, elles construisent des écoles. S'il n'y a pas d'addiction d'eau, ils peuvent solliciter qu'il y ait des projets d'addiction d'eau dans leur milieu. S'il n'y a pas de marché, on peut construire des marchés. Ou même la route ou des routes secondaires comme des routes nationales.
Mais il y a toujours qui ne pas de route.
Généralement, c'est ça. Ça doit être décidé au préalable et c'est ce qui rentrerait dans le développement durable de la zone. Mais la loi prévoit que cela s'efface. Et d'ailleurs, ce cahier de charges doit être discuté et l'Agence congolaise de l'environnement doit avoir une copie de cahier de charges. pour qu'il assure le suivi de la mise en œuvre aussi de ce projet de développement. Malheureusement, avec la façon dont le Chinois arrive dans nos territoires, et nous ne cesserons pas de le dire, avec le trafic d'influence, il s'avère que tout ça n'est pas respecté. Et les projets et les entreprises ne parviennent plus à mettre en place les projets liés aux responsabilités sociétales. Donc, les cahiers des charges ne sont pas respectés. Alors que c'est vraiment une de préalable à l'exécution de tout projet d'exploitation minière. Ça, c'est vraiment une conséquence à dépanner. Entre autres, au-delà de ça, nous constatons qu'il y a aussi, pas une méfiance, mais plutôt une négligence de la part des autorités locales, qui, elles, sont facilement manipulables. Et c'est le cas des Luenga. Ce sont les autorités locales qui mettent la population en difficulté. Ils vont souvent négocier avec le Chinois au détriment de leur population. Et ils sont les premiers, ils se cachent et ils vont dire à la population, nous ne faisons rien, alors que nous les voyons comment ils discutent. Quand vous invitez ces Chinois, ils vous amènent des preuves que voici ce que nous avons fait avec tel chef. Voici ce que nous avons fait avec tel chef. C'est ça la conséquence de ce qui se passe à Moinga. Donc, nous sommes en train de dire que les entreprises chinoises ou les entreprises à capitaux chinois ne sont pas en train de discuter les cahiers des charges. Ils ne font pas la responsabilité sociétale comme d'avoir les prévois. Mais ils passent par derrière et ils vont voir les autorités locales auxquelles ils remettent une enveloppe. Et c'est fini, et il reste en train de dire à la population que non, les Chinois. Alors qu'en réalité, ils sont en train de travailler avec les Chinois. C'est elles qui accompagnent les Chinois dans tout ce qu'ils sont en train de faire.
Les sanctions. C'est désolant.
C'est vraiment désolant. Donc, ils sont en train de mentir à la population, alors que c'est eux qui accompagnent ces Chinois-là à détruire non seulement leur environnement, et à extraire tout ce qu'ils doivent extraire au détriment de la communauté. Voilà pourquoi le développement durable au sein des villages de Moinga reste une illusion. Je dis bien, il reste une illusion parce que les acteurs qui sont censés accompagner ça, ce sont eux qui sont à la base de cette exploitation illicite.
Aïe. Permettez-moi de faire un tout petit pas en arrière. Vous avez parlé de la santé, des conséquences que cela pourrait avoir d'extraire le minerai à bras ouverts. Parlez-nous un peu des solutions à envisager lorsque cela intervient, lorsque cela est visible au sein de la population, au sein de la communauté, surtout ceux qui sont exploitants artisanaux.
Oui, en fait, vous savez, lorsqu'il y a déjà des conséquences, lorsqu'on fait des études, c'est pour gérer les conséquences. Donc, on prend des mesures de précaution pour que ces conséquences néfastes n'arrivent. Et raison pour laquelle il faut imposer ces outils-là. Malheureusement, cela ne se fait pas comme il se doit. C'est le jeu de cascade, le jeu de corruption, le jeu de n'importe quoi ce qui se passe. Maintenant, de même au niveau de l'exploitation artisanale, les gens, nous avons le service de SAEMAP qui doit mener des sensibilisations, qui doit montrer à ces gens les conséquences des produits qui sont en train de manipuler, par exemple, qui doit montrer aux gens les conséquences de travailler sans des équipements de protection individuelle. Ils le font, ils le manipulent sans s'inquiéter, alors qu'il y a un service qui est censé encadrer ces artisanaux qui doit vraiment leur montrer ceci ne vaut pas, ceci vaut. Et c'est cette lâcheté-là que nous sommes en train de constater au niveau de l'exploitation artisanale. Ceux qui sont censés les accompagner, il ne faut pas un bon accompagnement. La raison pour laquelle les conséquences sont beaucoup plus ressenties. Vous remarquerez souvent les gens qui sont dans l'exploitation artisanale, ils sont là pendant un temps et dans les jours à venir, c'est la santé qui dégringole. Pourquoi? Parce qu'ils ont manipulé des produits qui nuisent à leur santé. Donc, là, ce que moi je proposerais actuellement, c'est vraiment des séances de sensibilisation au profit de ces exploitants artisans.
Et pour se protéger, qu'est-ce qu'il faut avoir?
Je venais de le dire, il faut avoir des équipements de protection.
De quel, par exemple?
Vous avez les casques à bord. Vous devez avoir des gants. Vous devez avoir des cache-nez. Parce qu'il ne fallait pas que vous arriviez à inhaler ces produits chimiques que vous utilisez. Vous devez avoir des gants. Hein? Et souvent, vous les voyez travailler aussi dans des mines, donc dans des tours. Et il fallait avoir de tenues fluorescentes. Parce qu'il peut même travailler la nuit. Il fallait qu'on sache que là, il y a une personne. Tout ça, ce sont les équipements qu'ils doivent avoir. Parce que si vous n'aviez pas ça, et que l'ami, quelqu'un t'a dépassé dans ce mine-là, il peut aller vous blesser parce qu'il n'est pas en train de vous voir. Mais si vous avez des équipements qui sont fluorescents, vous les verrez à distance, vous comprenez qu'il y a quelqu'un qui est en train de venir là-bas. Et ça va vous épargner de tous les dégâts qui peuvent subir.
Merci beaucoup, Monsieur Camille. En termes de recommandations, qu'est-ce que vous diriez aux autorités publiques, aux entreprises minières et surtout à la communauté locale?
D'abord, je dois commencer par les autorités publiques. Les autorités publiques doivent être conscientes, savoir que les minerais, ce sont des ressources épuisables. Et lorsqu'ils donnent des autorisations, ils doivent se rassurer que tout le préalable sont réunis. Donc, imposer à ces gens-là à respecter la loi. Parce que la loi a bien prévu tout ça. Et toutes les règles sont bien définies. Que ce soit dans les codes miniers comme dans le règlement minier, tout est clair. Et même ceux-là qui viennent là, ils savent ce que dit la loi. Mais comme les autorités publiques sont complaisantes, et sont complaisantes, c'est-à-dire qu'il suffisait qu'on donne quelque chose, oui, ils se laissent passer. S'il vous plaît, je suis en train de faire cette recommandation qui soit consciencieuse, que ces autorités-là soient consciencieuses, qu'ils s'imaginent qu'un jour, ces ressources-là ne seront plus, parce qu'elles sont épuisables. Et aussi, ils doivent imposer à ces gens, parce qu'ils doivent préserver la santé de leur population. Si tu es autorité et que tu ne sais pas que je dois protéger la santé de ta population, c'est quelque part là, tu n'es pas en train de faire ce que tu es censé faire. Ça, c'est une recommandation que je suis en train de formuler à l'endroit des autorités. Qu'est-ce que je dois dire à l'endroit des chefs locaux? Les chefs locaux doivent cesser de faire les doubles jets. De ce côté, ils tendent la main dans l'obscurité à ces exploitants. De l'autre côté, ils crient à la population. Ça ne va pas, ces gens, ils font ça. Alors qu'au fond, c'est elles, ces autorités-là, qui sont en train d'accompagner cette exploitation illicite parce qu'il y a une enveloppe qui leur a été remise. Ils doivent cesser avec cette hypocrisie. Ils sont en train de sacrifier leur population. Et aux exploitants artisanaux, nous les recommandons vraiment d'éveiller sur leur sécurité. Parce que tout en dépend. Les produits chimiques qui sont en train de manipuler sont vraiment néfastes. Et ils peuvent toujours entraîner leur mort, si pas aujourd'hui, mais leur lendemain n'est pas toujours assuré s'ils font des manipulations non protégées. Ils doivent toujours avoir des équipements de protection et ils doivent se rassurer des conséquences des produits qu'ils sont en train d'utiliser. Aux organisations non gouvernementales qui œuvrent dans la zone, ils doivent prendre le temps de sensibiliser la communauté locale, voire même les exploitants artisanaux, à bien prendre leurs responsabilités. Parce que les exploitants artisanaux semblent être ignorants. Mais nous avons les organisations locales qui sont informées et qui doivent faire des sensibilisations au profit de cette population-là pour voir comment ils peuvent les aider.
Et à la communauté?
Et à la communauté, nous leur disons d'être veillants. Il ne faut pas qu'il accepte n'importe quoi. Parce que même si vous avez des chefs, et si vous trouvez que les chefs faillissent à leur mission, ils ne sont pas chefs parce qu'il n'y a pas la population. Ils sont chefs parce que vous êtes là. Et ils doivent se prendre en charge. Parce que S'il y a destruction des champs, ce sont leurs champs qui sont détruits. S'il y a des étangs piscicoles qui sont détruits, ce sont leurs étangs. S'il y a des maladies qui sont propagées, c'est eux qui sont victimes. Donc, ils doivent être veillants, ils ne doivent pas se laisser faire. Là où ils trouvent qu'ils doivent vraiment s'imposer, ils doivent s'imposer. Ça, c'est la recommandation que je suis hâte de formuler à l'Évangile. Ils ne vont pas se laisser faire.
Merci beaucoup, M. Camille Dolandola, pour ces éclairages essentiels. Nous retiendrons que l'exploitation minière ne peut être une bénédiction que si elle est responsable, contrôlée et équitable. Dans toute l'exploitation minière, les êtres humains doivent rester au centre pour aspirer au développement durable. Ils ont droit à la vie saine et production en harmonie avec la nature. Messieurs et dames, vous venez de suivre Terre promise ou enfer, une production de l'ICPRD en partenariat avec Grand Lac TV. Merci à notre invité, surtout à toute l'équipe technique et à vos chers auditeurs, auditrices. Rendez-vous très bientôt dans un tout autre numéro. Marie-Adrienne Narizi qui jetait la présentation sous la supervision de John Chindano. Au revoir.